Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 21 janvier 2021. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Joe Biden entame sa présidence en signant des décrets dont certains annulant des mesures de son prédécesseur. Dans le monde, c'est l'optimisme chez les alliés, mais les réactions sont plus réservées du côté des rivaux des États-Unis. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur les violences qui aggravent la crise humanitaire dans le nord du Mozambique. Deux attentats suicides à Bagdad, la capitale irakienne, ont fait plus de 30 morts. Le pape dénonce un acte de brutalité insensé. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Tout juste installé à la Maison-Blanche, Joe Biden consacre sa première journée à sa plus grande priorité, la lutte contre le coronavirus qui a fait plus de 40 000 morts aux États-Unis. Le tout nouveau président a aussi engagé d'autres actions, dont le retour des États-Unis à l'OMS et la réforme de l'immigration. Les précisions de John Lyndon.
Les États-Unis ont l'intention de remplir leurs obligations financières, a déclaré l'immunologue Anthony Fauci lors d'une réunion du Conseil exécutif de l'OMS, marquant ainsi le retour des États-Unis au sein de l'agence onusienne. Joe Biden, 78 ans, a aussi pris dès mercredi un décret rendant obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux. Le 46e président américain va tenter de convaincre les républicains du Congrès de voter un plan de relance de 1900 milliards de dollars pour amortir les effets du COVID-19 sur l'économie. Mitch McConnell, chef de républicain du Sénat, a promis de travailler avec lui à chaque fois que cela sera possible. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a déjà transmis au Congrès un projet de loi ambitieux sur l'immigration après avoir suspendu la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et annulé un décret qui interdisait aux ressortissants de certains pays musulmans d'entrer aux États-Unis.
L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche est saluée par de nombreux alliés des États-Unis, tandis que leurs rivaux se sont montrés beaucoup plus réservés. Nathalie Barche.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité du retour des États-Unis à l'OMS que Donald Trump avait décidé de quitter. Et le président français Emmanuel Macron a salué la décision de Joe Biden de retourner dans l'accord de Paris sur le climat. La chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique Boris Johnson se sont dit impatients de travailler avec le nouveau président américain. La Russie a jugé que l'amélioration des relations entre Moscou et Washington dépendrait de la volonté politique de Joe Biden sur le traité de désarmement New Start. Et Téhéran a déclaré que Joe Biden est désormais aux commandes d'un éventuel retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé la nouvelle administration américaine à surmonter la diabolisation dont il se dit victime. Les Palestiniens ont invité Joe Biden à œuvrer à la création d'une Palestine indépendante et le pape François a envoyé l'assurance de ses prières au deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis après John Kennedy.
Nous aurons plus de réactions sur la prise de fonction de Joe Biden dans la partie magazine. Les premières livraisons en Côte d'Ivoire du vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 initialement prévu fin janvier sont reportés à la mi-février en raison de retard dans leur mise à disposition selon les autorités ivoiriennes. Malgré ces retards, le gouvernement maintient le calendrier prévu pour la campagne de vaccination et demande au ministère compétent de poursuivre les préparatifs selon le communiqué du Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire compte 25 597 cas confirmés de coronavirus et 142 décès. L'ONG Human Rights Watch a demandé ce jeudi une enquête rapide et impartiale sur une frappe française dans le centre du Mali qui a coûté la vie à au moins une vingtaine de personnes. Des villageois et une association Peul affirment que cette frappe a tué une vingtaine de civils lors d'un mariage dans le village de Bounti le 3 janvier. Les autorités françaises et maliennes martèlent que les avions français ont visé et éliminé des dizaines de djihadistes et qu'il n'y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants. Les attaques djihadistes dans le nord du Mozambique ont créé une grave crise humanitaire, ont déclaré hier les Nations Unies, estimant que plus d'un demi-million de personnes ont fui leur maison. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Un groupe djihadiste connu sous le nom d'Alusuna Wajama fait des ravages dans la province de Cabo Delgado depuis 2017. Ses combattants pillent et incendient des villages dans le cadre d'une campagne visant à établir un califat islamiste. Après avoir fait allégeance au groupe État islamique en 2019, les djihadistes ont intensifié leurs attaques procédant à des décapitations et enlèvements de femmes et d'enfants. Au moins 2500 personnes, la plupart des civils, ont été tuées. Selon le gouvernement de Maputo, ces attaques ont forcé plus de 565 000 personnes à fuir leur maison, abandonnant derrière eux leurs récoltes et moyens de subsistance. Maintenant, 1,6 million de personnes ont besoin d'aide, selon Myrta Kaula, coordinatrice des Nations Unies au Mozambique. L'armée mozambicaine a eu du mal à reprendre le contrôle de la province du Cabo Delgado, qui abrite également les trois plus grands projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique.
L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankhor Ndiaye, a réclamé jeudi au Conseil de sécurité une augmentation substantielle des effectifs de l'opération de maintien de la paix dans le pays après les récentes attaques meurtrières de groupes armés. Il faut que cette augmentation s'accompagne d'une plus grande mobilité des casques bleus, a ajouté le représentant de l'ONU, en évoquant par ailleurs une grande désertion des forces de sécurité centrafricaines depuis le mois de décembre qui nécessite des réformes, selon lui. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie se sont réjouis ce jeudi de l'instauration du mécanisme devant permettre l'établissement d'un pouvoir exécutif intérimaire en Libye. Ce mécanisme permettra l'organisation d'élections nationales en Libye le 24 décembre 2021, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Ce vote constitue une étape majeure vers l'unité du pays. La décision du forum fait écho aux exigences de la population libyenne qui réclame un changement de situation selon le texte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, un double attentat suicide a fait au moins 32 morts et 110 blessés, dont certains gravement aujourd'hui dans le centre de Bagdad. Ce type d'attaque n'a pas eu lieu depuis plus de 18 mois dans la capitale irakienne. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
Ce bilan pourrait encore s'alourdir et plusieurs éléments du corps médical sont en état d'alerte maximale. L'attentat a eu lieu sur la place Tahrir, un carrefour très fréquenté de Bagdad. Un premier homme a déclenché sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs de vêtements d'occasion et de badauds. Alors qu'un attroupement se formait pour tenter de venir en aide aux premières victimes, un second kamikaze a fait détonner ses explosifs, a expliqué le ministère irakien de l'Intérieur. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais ce mode opératoire a déjà été utilisé dans le passé par le groupe État islamique. Elle survient quasiment 3 ans, jour pour jour, après un attentat similaire au même endroit. Les autorités discutent de l'organisation d'un scrutin législatif, une échéance régulièrement accompagnée de violences en Irak. Le président irakien Barham Saleh a dénoncé des tentatives malignes de faire trembler la stabilité du pays. Un acte condamné par la mission de l'ONU et l'ambassade des États-Unis. Le pape François, qui compte se rendre dans le pays du 5 au 8 mars, s'est dit profondément attristé par ce qu'il a appelé un acte de brutalité insensé.
Le nombre de demandes d'asile a chuté de 41% en France l'an dernier sous l'effet de la crise sanitaire, marquant une rupture nette après des années de hausse depuis la crise migratoire de 2015. Selon le ministère français de l'Intérieur, qui a publié ces chiffres ce jeudi, une telle baisse s'explique par la crise sanitaire du Covid-19 et plus précisément par l'impact des confinements sur l'activité des guichets uniques pour demandeurs d'asile et sur la circulation des étrangers. En Bosnie, une bagarre opposant des groupes de migrants a fait 2 blessés parmi les policiers ainsi qu'un employé de l'Organisation internationale des migrations. Plusieurs patrouilles ainsi que des membres de l'unité anti-émeute sont intervenus pour rétablir l'ordre, a déclaré un porte-parole de la police. La bagarre impliquant un grand nombre de migrants avait éclaté dans la soirée dans un centre d'accueil de la banlieue de Sarajevo qui héberge plus de 3000 personnes. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour ne pas avoir empêché des exactions après le bref conflit qu'il a opposé à la Géorgie en 2008. Durant cette période, la CEDH estime que la Russie a exercé un contrôle effectif sur deux régions séparatistes pro-russes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barche.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a arrêté mercredi des mesures de suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée en maintenant ceux appliqués au 31 décembre 2020. Ainsi que le prix du sac de 50 kilos de farine boulangère maintenu à 19 000 francs CFA maximum. Deux comités techniques composés de représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place pour la poursuite des concertations. Selon le classement Global Firepower 2021, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc sont les plus importantes puissances militaires en Afrique. L'armée égyptienne est la mieux équipée avec 930 000 hommes, dont 450 000 en service actif, 10 053 aéronefs, 11 000 blindés et 316 bâtiments de marine. L'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc complètent dans l'ordre le top 5 africain des puissances militaires en 2021. Aux États-Unis, du 10 au 16 janvier, 900 000 personnes se sont inscrites au chômage selon les données publiées jeudi par le département du travail. C'est un peu moins que la semaine précédente lorsque de nombreux chômeurs s'étaient réinscrits du fait de la prolongation des aides votées par le Congrès. Mais cela reste quatre fois plus élevé qu'il y a un an et bien au-dessus de la pire semaine enregistrée lors de la crise financière de 2008.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, a annoncé avoir été contrôlé positif au Covid-19 à Douala, au Cameroun, avant le deuxième match des Léopards en championnat d'Afrique des nations de football. Je suis à Douala, dans ma chambre. Il se trouve que les résultats sont positifs, mais je n'ai aucun symptôme. Tout va bien vraiment. Je me sens même en super forme, a déclaré Jean-Florent Ibenge dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Les Léopards jouent leur deuxième match contre la Libye, à suivre après Congo-Niger hier dans la poule A. Le Burkina Faso s'est relancé en battant le Zimbabwe 3-1. Le pays hôte, le Cameroun, a fait match nul 1-1 face au Mali. Maliens et Camerounais sont en tête de cette poule A avec 4 points chacun, suivi des Burkinabés 3 points et des Zimbabwéens 0 points. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, s'est déclaré convaincu que les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront cet été, ajoutant qu'il n'y a pas de plan B. Nous n'avons à cet instant aucune raison de croire que les Jeux olympiques à Tokyo ne s'ouvriront pas le 23 juillet dans le stade olympique à Tokyo, a dit M. Bach à 6 mois des JO. M. Bach a cependant laissé entendre que le nombre de spectateurs pourrait être réduit, affirmant que le CIO devrait être flexible et prêt à faire des sacrifices pour protéger la vie des gens. L'état d'urgence a été réinstauré à Tokyo et dans 6 autres départements. Un récent sondage a montré que 80% des Japonais sont opposés à la tenue des JO cette année, 35% étant favorables à leur annulation et 45% à un nouveau report. Les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021. Ici, en NBA, le pivot camerounais des Sixers, Joel Embiid, a marqué 42 points en jouant un rôle décisif dans la 15e victoire de Philadelphie cette saison, 117 à 109. Colin Sexton, de retour après avoir été blessé à une cheville, a marqué 42 points et assuré à lui tout seul la victoire en prolongation 147-135 des Cleveland Cavaliers face au Big Three des Brooklyn Nets, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Irving, notamment, a terminé la rencontre avec 37 points. Harden a sorti un triple-double, 21 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. Et Durant a marqué 38 points et capté 12 rebonds. Malgré tout, les Cavaliers ont été trop forts. Dans les autres matchs, les Dallas Mavericks ont vaincu Indiana Pacers 124 à 112. Les Los Angeles Clippers l'ont emporté devant Sacramento 115 à 96. Enfin, un panier à 3 points au buzzer de Cole Anthony a permis au Orlando Magic de l'emporter sur le fil 97 à 96 chez les Minnesota Timberwolves. Deux matchs ont été reportés en raison du protocole sanitaire mis en place pour tenter de contenir la pandémie de COVID-19. Portland-Memphis et Charlotte-Washington.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'administration Biden a promis de rompre avec la diplomatie unilatéraliste de son prédécesseur Donald Trump. Quelle pourrait être la place de l'Afrique dans la nouvelle politique étrangère des États-Unis? Eric Manirakiza a joint Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University.
Volonté du président Biden de revenir au premier plan dans les affaires du monde signifiera de manière quasiment nécessaire un intérêt pour le continent africain et un intérêt au-delà des simples questions de sécurité. Les questions de sécurité sont là, évidemment, qui vont attirer son attention, mais au-delà de cela, je crois qu'il y aura un intérêt réel pour un partenariat avec le continent américain.
Concrètement, en quoi l'Afrique pourrait profiter du passage de Biden à la Maison-Blanche?
Si le passé porte des leçons, on se souvient que l'administration Obama-Biden avait déjà manifesté un intérêt renouvelé pour le continent africain. Les sommets, le sommet Afrique-Amérique qui s'était déroulé sous l'administration Obama doit être une leçon. On sait que le président Biden a joué également un rôle dans un accord commercial qui a été négocié avec le Kenya. Mais ce sont des signes, à mon avis, qui peuvent indiquer potentiellement un intérêt ferme pour l'Afrique. Et de ce point de vue-là, c'est aux Africains eux-mêmes aussi de prendre l'initiative en la matière, parce qu'il ne s'agit pas simplement pour l'Afrique d'attendre ce que l'Amérique va faire. L'Afrique doit affirmer sa propre présence dans les affaires du monde et prendre l'initiative de dire aux États-Unis sur quel point, évidemment, des partenariats nouveaux peuvent se nouer.
Qu'est-ce que l'Afrique peut offrir en retour?
Il faut se souvenir que l'Afrique aujourd'hui est une Afrique avant la pandémie, évidemment, parce que là, nous sommes en pleine catastrophe. Mais avant la pandémie, c'est une Afrique dont tout le monde s'accordait à penser qu'elle portait des promesses très, très importantes et que c'était un continent d'avenir, peut-être même le continent de l'avenir. Il y a ses ressources naturelles qui ont toujours été là. Il y a la jeunesse de sa population dont on s'accorde à penser qu'elle est à la fois, elle peut être un problème évidemment parce que ce sont des jeunes à qui il faut donner la meilleure éducation possible, qu'il faut former, à qui il faut également trouver du travail. Mais c'est également une jeunesse tout à fait innovante qui est, d'ailleurs je parlais du Kenya tout à l'heure, Nairobi a été appelé à un moment donné la nouvelle Silicon Valley de l'Afrique. Il y a toutes ces potentialités, à mon avis, que l'Afrique a à offrir et qui devraient être d'un intérêt certain pour l'Amérique, une Amérique qui veut maintenir sa place et son leadership dans le monde et qui est en concurrence avec la Chine. Il faut se souvenir aussi que l'Amérique n'est pas seule, ce n'est pas un tête-à-tête entre l'Afrique et les États-Unis. Dans la mesure où l'Amérique veut contrer la Chine sur un territoire comme le continent africain, où la Chine aujourd'hui est très présente.
C'était Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au chapitre des réactions à l'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche, les Ivoiriens ont suivi de près le feuilleton américain et se prononcent sur la gestion de Donald Trump et les défis qui attendent de Joe Biden. Ils sont au micro de Aïcha Diarra.
C'est un dictateur pour moi. Voilà. Sa gestion, je n'apprécie guère. Compte tenu du nouveau président, je pense bien que ce dernier-là, je mérite qu'à l'avenir, il ouvre les portes à l'Afrique pour que nous également puissions aller à l'extérieur.
Le président Donald Trump, sincèrement, moi, je n'ai pas aimé sa politique. Surtout envers les musulmans. Il a détesté catégoriquement les musulmans. Donc, j'espère que le nouveau qui est venu sera bon que lui. Parce que, sincèrement, moi, je n'ai pas aimé sa tête, encore moins sa manière de gouverner l'Amérique.
Tous les dirigeants politiques doivent prendre l'exemple sur les États-Unis, sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire ne pas accepter de forcément rester au pouvoir dans la force. Il faut accepter la démocratie, il faut accepter de perdre quand il faut perdre. Il faut accepter aussi de reconnaître la victoire, en tout cas de celui-là même qui a véritablement gagné.
Bon, concernant la gestion de Donald Trump, on va dire que dans l'ensemble, il a fait une mauvaise gestion. Il a eu des problèmes quasiment avec tous les pays. Il n'aimait pas les Noirs, il était très raciste. Donc tout ça seulement, je suis contente qu'il ne soit plus à la tête des États-Unis d'Amérique. Et Et pour ce qui concerne Joe Biden, il a travaillé avec Obama. On espère qu'il fera mieux, il portera un regard particulier à l'Afrique.
Donald Trump n'était pas vraiment le président des États-Unis. Sa politique n'était pas conforme à celui des États-Unis, car les États-Unis ont besoin d'un président qui réunit tous les Américains, et non pour les diviser. Je pense que le nouveau président sera à la hauteur, bon mandat à lui.
Donald Trump, il a mal géré le pays, puisque à sa gouvernance, il y a eu, l'Amérique était déchiré avec les uns et les autres. Quand c'est comme cela, c'est pas bon pour un pays. Et l'avènement de l'élection de Joe Biden, je pense que ça va ressouder les États-Unis d'Amérique. Et ça aura un effet aussi sur le monde. Parce que les uns et les autres regardent l'Amérique pour pouvoir aussi gérer leur pays.
Franchement, c'était un monsieur que moi, je supportais pas. Tout juste parce qu'il avait une mission. Et cette mission, c'était de réunir les États-Unis. Peut-être un président exemplaire. C'est d'être quelqu'un qui pourra aider dans l'évolution des États-Unis. Mais non, il a carrément laissé son objectif. Et puis, il s'est carrément détruit. Tourner vers les idéologies qui ne sont même pas les siennes. J'espère que le président rentrant, Joe Biden, j'espère qu'il sera à la hauteur.
Réaction toujours en Afrique sur l'investiture de Joe Biden. Au Burkina Faso, l'événement est également bien suivi. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche et le départ de Donald Trump sont commentés dans les rues de la capitale burkinabé. Fousseni Soumaoro est un opérateur économique.
La quête de la démocratie est une quête permanente et que même ceux qui ont des centenaires de tradition dans cette démocratie ne sont pas à l'abri de certaines situations que nous vivons déjà en Afrique.
Est-ce que vous attendez, en tant qu'Africain, que le prochain président Joe Biden sera plus ouvert à l'Afrique que Donald Trump?
Pour moi, Donald Trump n'a pas été fermé à l'Afrique. Il a juste changé, je dirais, de façon de communiquer. Ses actions avaient le mérite d'être franches et directes et à nos États de défendre leurs intérêts.
Abdulaziz Ndikema est pro-Biden.
C'est dommage, mais un homme d'accepter perdre, ça fait partie de la vie. Nous sommes déjà très contents que Joe Biden soit le futur président des États-Unis parce que déjà, il en a fait beaucoup, il a traversé beaucoup de moments difficiles et ça prouve que tout est permis dans la vie, tout est possible. Il est entouré de personnes quand même qui connaissent l'Afrique. Donc je pense que tout ira bien pour l'Afrique.
Contrairement à Donald Trump qui avait traité les pays africains de merde.
Bon, Donald Trump lui c'est un businessman. En business, il n'y a pas de sentiment. On fait que du business, point.
Selon Émile Paré, l'Afrique n'a pas à attendre grand-chose de Joe Biden, qui est simplement le président élu par les Américains.
Selon moi, cela ne dit absolument rien. C'est les Américains qui l'ont élu. Ah bon, c'est les Américains qui vont servir.
Donald Trump n'a jamais accepté sa défaite.
Bon, Donald Trump, c'est Donald Trump. Bon, c'est sa personne. Il a géré l'Amérique comme sa société. Bon, voilà, il a payé le prix.
Vous pensez que l'Afrique a gagné avec ce prochain président, Joe Biden?
Bon, l'Afrique, est-ce que l'Afrique attend de lui? Rien. Parce que c'est les Américains qui l'ont élu. Il va servir les Américains.
Le fait que Donald Trump n'assiste pas à l'investiture de son successeur jette un discrédit sur cette cérémonie. Mais au-delà, toute la démocratie du pays, pas rien, est analyste politique.
Et ce qui déjà donne une mauvaise image aux États-Unis. Les États-Unis, donc, qui étaient présentés comme un modèle de démocratie à travers le monde. Si l'un des pays présentés comme modèle se comporte ainsi, je pense que cela pose problème. Cela ternit un peu l'image des États-Unis, ce pays-là défenseur donc de la démocratie. On peut s'attendre à des troubles, hein, après, pendant le mandat, le premier mandat de Joe Biden, dans la mesure où les pro-Trump, jusqu'à ce jour, n'ont pas accepté la défaite de Donald Trump, ce qui voudrait dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il puisse avoir des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, des marches et tout, juste pour mettre des bâtons dans les roues du président nouvellement élu.
À Ouagadougou, comme un peu partout dans les différentes villes du pays, l'investiture de Joe Biden est un sujet bien débattu. Les Burkinabés devront désormais s'habituer à Joe Biden, le 46e président américain. Lamine Traoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis demandent des comptes aux juges et aux procureurs vénézuéliens qui ont pris part au procès de novembre 2020 et à la condamnation de 6 dirigeants de la compagnie pétrolière Citgo basée à Houston. Connus sous le nom des six de Citgo, Temeru Vadel, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano et José Angel Pereira ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison. En 2017, les six de Citgo ont pris part à une réunion d'affaires de dernière minute à Caracas, la capitale du Venezuela. Un peu de temps après leur arrivée, des agents de sécurité masqués ont fait une descente dans la salle de conférence, ont arrêté les hommes et les ont jetés dans la célèbre prison de l'Hélicoïde. Ces Américains, a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo dans un communiqué, sont injustement emprisonnés au Venezuela depuis novembre 2017, après avoir été attirés à Caracas sous des faux prétextes. En août, les procès des six hommes ont finalement commencé, après qu'ils ont été détenus pendant près de 1000 jours. Deux responsables du régime illégitime de Maduro, la juge Lorena Carolina Cornell Ruiz et le procureur Ramon Antonio Torres Espinoza, ont joué un rôle essentiel dans les procès bidons de chacun des dirigeants de Citgo. Les procédures n'avaient aucune garantie d'équité et étaient fondées sur des accusations politiquement motivées. Le procès n'était pas public, comme le garantit la Constitution vénézuélienne, et les médias et les groupes de défense des droits de l'homme se sont vus refuser l'accès. La détention et la condamnation injustifiée de ces six citoyens américains démontrent en outre à quel point la corruption et les abus de pouvoir sont profondément ancrés dans les institutions du Venezuela, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Les États-Unis restent déterminés à protéger leurs citoyens et à cibler ceux qui contribuent à l'usurpation du pouvoir par le régime illégitime de Maduro au Venezuela. Ces six hommes et leurs familles ont assez souffert, a déclaré le secrétaire Pompeo. Il est temps pour Maduro de libérer les six de Citgo et de les laisser retrouver leur famille.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.